Mathieu Béliard. Bienvenue sur Europe 1. The news of the day. Oui, oui, je suis encore américain. Oui,
bien.
C'est Donald Trump qui refuse, vous le savez, la victoire de Joe Biden et déclare qu'il faudra le sortir de force du bureau ovale. Alors moi, parce qu'on est une radio qui propose sur Europe 1. Moi, j'ai un truc pour sortir Donald Trump. Il suffirait, je pense, juste de mettre une actrice porno avec un Big Mac devant le portail sur une grosse tapette.
Ah non.
Hein, comme une sorte de piège à fromage pour souris. Voilà. Et je suis garanti que Donald Trump, il va sortir tout seul. Finalement, Julie, Donald Trump aura quelque part vécu l'année 2020 comme un Français. Finalement, il a chopé le Covid et maintenant, il perd son boulot.
Voilà. Oh là là.
On fait les parallèles qu'on peut sur ouais. L'autre info du jour, c'est le 50e anniversaire de la mort du général de Gaulle.
Mm-hmm.
Pour Charlie, il a risqué finalement sa vie pour libérer la France, pour qu'au final on termine libéré mais tous enfermés. Oh oui, oh très belle image, mon cher Mathieu. Bonjour, c'est Stéphane Bern, peut-être ne m'avez-vous pas reconnu.
Oui,
c'est la chienlit. Tout à l'heure, je vous ai donné l'explication, si vous étiez levé, de ce mot du Moyen-Âge, la chienlit, qui s'écrivait d'ailleurs en trois mots à l'époque. Chienlit. Oui, c'est une expression donc sur l'incontinence fécale dont
oh
je vous parle au petit déjeuner. J'espère que Jimmy Mohamed ne voudra pas.
Moi j'ai une bonne parce qu'on m'a consulté, j'ai une bonne imitation du général de Gaulle, hein. Ce serait dommage de s'en passer, je vous la fais, hein.
Ouais.
3-4. Je vous ai compris.
Oh, oui, c'est vrai qu'il l'a dit, Laurent, ce matin.
Voilà, écoutez, je vais vous dire. D'ailleurs, pour paraphraser le général de Gaulle, je dirais, comment prévoir la météo dans un pays qui a 368 fromages? Oui, c'est pas très clair. Pour vous. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a... Non, parce qu'en fait, je voulais parler du microclimat. C'est qu'il y a autant de fromages, de microclimat, truc à de fromages. Du coup, c'est... Parce que je veux dire, l'esprit... Ce que je donne, c'est l'esprit de la météo en général sur la France, enfin sur l'Europe, dans le pays, enfin dans le monde. Enfin, du coup, j'ai pas bon partout, forcément. Du coup, les gens gueulent. Bon. Ce que je vous insiste, c'est être votre météorologiste chacun fait sa météo. Vous ouvrez la fenêtre, vous faites votre météo vous-même.
Voilà. Ouais, c'est ce qu'il a dit, ouais.
Ouais, c'est la chienlit. C'est quoi ce bordel? C'est la chienlit ce matin. L'actu, c'est moi. L'info, c'est moi.
Jean-Luc Mélenchon. Ah. Pardon, mais c'est vrai, on l'a appris hier soir. Vous êtes candidat. Hein,
oui,
2022.
Madame. Hein, oui, parce que je suis la lumière des braves gens. Mais attention, je serai candidat si, parce que je suis un démocrate dans l'âme, si et seulement si je remporte 150 000 et l'adhésion 150 000 signatures.
Oui, mais vous allez les avoir forcément. Vous avez eu 7 millions de voix à la dernière élection.
Oui, mais tu te doutes bien si je propose ça, si c'est une arnaque. Hein. Alors t'es gentil de ne pas mettre la lumière dessus.
Ah,
okay,
pardon, bah, écoutez, je vais vous laisser. Emmanuel Macron a félicité Joe Biden pour son élection. Ce n'est pas encore le cas de Jean Castex. Bonjour, monsieur le Premier ministre.
Bonjour.
Alors, vous voulez profiter de notre antenne après avoir envoyé un message à Joe Biden, c'est ça?
Oui. Yes. With pleasure. Congratule. Action. Congratulations, félicitations to Joseph Biden for gagning the Maison Blanche.
Oh là là là.
Et félicitations à Donald Trump qui a winning aussi. Everybody a gagning.
Progress. Eh ben, c'était très bien, Jean Castex. Hein?
Alors, très bien, peut-être, mais je précise tout de même, madame. My name is Castex, John Castex, because si ça se trouve, ce n'est pas impossible que Monsieur Biden ne me connaisse pas.
Ah bah oui, il y a des chances, hein, je peux vous le confirmer. Merci Jean Castex.
Je vous en prie.
Après sa défaite, Donald Trump compte sur la Cour suprême pour invalider les résultats et lui donner raison. La Cour suprême, c'est un petit peu notre conseil constitutionnel à nous. Alain Juppé, bonjour.
Oui, bonjour ma chère Julie, monsieur Béliard, monsieur Cabrol, et consorts. Bonjour à votre sympathique équipe. Écoutez, oui, la Cour suprême, c'est un peu le conseil constitutionnel. C'est un organisme au-dessus des clivages partisans et qui peut valider ou non une élection. Par exemple, qui peut décider s'il y a eu des irrégularités et qui, le cas échéant, peut se désigner un vainqueur. Voilà. C'est fou parce que c'est l'ironie du sort. J'ai tout paumé dans ma vie et aujourd'hui, j'ai le pouvoir de donner des victoires à qui je veux, sauf moi.
Sauf vous, c'est vrai, oui. Ben oui.
Voilà, c'est quelque part la lose ultime. Finalement.
Alors, Joe Biden a 77 ans. Vous aurez vous-même 77 ans en 2022?
Je vous vois venir avec vos gros sabots, Madame Julie.
Bah oui.
Oui. Sabots, pardon. Écoutez, il faut être lucide. Non, c'est trop vieux d'ailleurs. Celle qui a vraiment gagné, c'est Kamala Harris, la vice-présidente.
Oui.
Elle est quelque part présidente en viager, en fait. Non, c'est une belle situation. C'est pas mal comme viager, la Maison Blanche.
Oh, bah oui.
Elle va y arriver, je suis sûr. Joe Robinette, dans 2 ans, il a ses premières fuites.
Arrêtons. Merci Alain Juppé. Après l'élection de Joe Biden et la défaite de Donald Trump, les États-Unis vont donc devoir... Marine Le Pen est là.
Pardon, Madame Leclerc.
Oui.
Je me permets de vous interrompre.
Mmh.
Désolé, je dis métisse. Joe Robinette Biden n'a pas gagné,
madame.
Et Donald Trump n'a pas perdu. Cette élection, dois-je le rappeler, a été truquée. Truquée assez d'ailleurs grossièrement, je dois le dire, madame.
Oui.
Et d'ailleurs, s'il vous plaît, ne m'interrompez pas. C'est un tour de magie à peine digne des émissions de M. Patrick Sébastien.
Oh, écoutez, pardon, Marine Le Pen, mais aucune preuve de fraude n'a été avancée. Même pas par Donald Trump lui-même, d'ailleurs. Malgré ce que clament tous vos lieutenants sur Twitter. Hein, on a vu ça.
Excusez-moi, mais qu'est-ce qu'il vous faut, madame? Sachez, madame, qu'on a retrouvé dans les urnes... on a retrouvé dans les urnes des millions de bulletins marqués Joe Biden. C'est uniquement à cause de cela, madame, qu'il a été élu.
Bah oui, ce sont les bulletins des gens qui ont voté Biden dans les urnes.
Donc vous aussi, vous confirmez l'existence de ces bulletins. Voyez, on avance. Pire encore, le nombre de ces bulletins excédait, madame. J'ai les chiffres. Excédé de plus de 4 millions le nombre de bulletins de M. Trump. Évidemment, dans ces conditions scandaleuses, il faut le rappeler. Il ne pouvait pas gagner, M. Trump. C'est de la triche. Mais la fraude était à trop grande échelle.
Mais enfin, vous parlez des bulletins déposés par les électeurs ?
Ah ben, nous y voilà. On a enfin donc l'identité des coupables. Mais... chaque bulletin, Biden a donc été déposé, c'est vous qui le dites, par un fraudeur différent. Voilà le stratagème qui a été monté, voilà comment ils ont fait.
Oh là 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 là, mais...
mais tu vas la boucler. Il n'y a pas de fraude, il n'y a rien.
Oh, l'arrivée de Jean-Michel Apathy. On peut la refaire. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Julie, bonjour Mathieu, bonjour Laura, bonjour les auditeurs, et bonjour Jimmy. Bonjour, écoutez, je n'ai pas pu m'empêcher d'intervenir parce que franchement, pendant tout le week-end, ça a été le festival de la théorie du complot chez tous les ténors du Rassemblement National. Mais de quelle fraude on parle? Ourdi par qui? Donald Trump a même été jusqu'à accuser la Poste. La Poste aurait rajouté des bulletins. Un facteur qui triche, Julie, il fait quoi? Je pose la question. Il balance quoi? Le courrier dans une poubelle? Hein? Il se fait... hein, franchement, c'est ce qu'il fait d'habitude. Non, il se fait pas chier à créer du courrier. Il le balance dans une poubelle, tout simplement. Il va pas lécher 4 millions d'enveloppes avec des bulletins bidons à l'intérieur. C'est quoi? Je pose la question. C'est quoi cette idée farfelue de la conspiration des facteurs? Moi, mon facteur, il arrive déjà à pas me donner un colis. Alors, il a truqué une élection américaine, vous imaginez? Il n'y a pas de fraude, il n'y a rien.
Merci Jean-Michel Apathy. Et puis tiens, un mot du Vendée Globe qui est parti hier. Nous sommes dans l'hélicoptère de France Télévisions avec Gérard Rolls. Bonjour Gérard.
Génial. Bonjour ma chère Julie, cher Gérard, Laurent, Jimmy. Très heureux de vous faire vivre en direct et en exclusivité sur Europe 1. Cette course fantastique. Oui, fantastique, elle est la course est fantastique. Le Vendée Globe. Vendée Globe, une course, je vous le rappelle, autour du monde, sans escale, sans assistance, sans gluten, sans OGM, sans chemise et sans pantalon.
Oula. Là, ça a l'air difficile, oui.
Et ma chère Julie,
oui.
Je suis avec le co-créateur du Vendée Globe, Philippe De Villiers. Bonjour.
Ah oui, c'est vrai, c'est la Vendée, c'est son territoire. C'est vrai, il a créé cette course avec le navigateur Philippe Gentot, c'était en 1989, je crois. Bonjour Philippe De Villiers.
Ouais.
Alors, c'était quoi la philosophie de cette course au départ?
Alors, moi, au départ, vous m'entendez?
Oui, très bien.
C'est le bruit de l'hélico. Regardez, au départ, je voulais qu'elle soit plus dure, cette course. Je voulais qu'on la fasse sur des bateaux en bois. que les navigateurs auraient construit eux-mêmes oui. avec leurs mains et sans avoir le droit d'emporter de quoi manger ou de quoi boire. Une sorte de Koh-Lanta. Avec l'obligation de se fouetter chaque jour avec la drisse de grand voile pour demander pardon. Mais là, c'est vrai qu'aujourd'hui, cette course a été dévoyée. C'est devenu trop facile. Les bateaux, c'est carrément des lofts. Hein. Ils sont sponsorisés par des marques de pizza surgelée. Ils ont une radio. Si le bateau coule, c'est même pas Dieu qui les sauve, c'est un hélicoptère. C'est pas du tout mon projet initial. C'est aujourd'hui, c'est devenu une course de bonne femme.
Oh non, mais ça va. Nous, on trouve ça difficile. Hein. Bon courage aux navigateurs, en tout cas. Très bon courage, là, ils sont en mer.
Oui, bon courage surtout à ceux qui restent à terre, hein, parce que le monde est tout pourri en ce moment. Il y a qu'en mer qu'on va échapper au bordel général.
Ah, ouais, il y a des chances. Hein.
Faire un tour du monde en solitaire, c'est franchement la bonne planque. Hein. Pas de contamination Covid possible, pas de terroristes dans le canot de sauvetage, pas de Donald Trump qui conteste tes voies de navigation. En mer, tout est super!
Bonjour à tous, bonjour ma chère Julie. Heureux de vous retrouver sur Europe 1. C'est Mathieu Belliard, bienvenue sur Europe. L'info du jour, ce n'est pas que la présence d'Olivier Dussopt dans les studios que Sonia Mabrouk a appelé Dubosc. Mais c'est arrivé à la fin, heureusement. Ça peut arriver parce que Sonia, il faut le dire, travaille beaucoup, donc elle peut se tromper. Mais heureusement que c'est arrivé à la fin, cette mégarde, elle aurait démarré en disant « Bonjour Franck Dubosc, alors, Camping 4, c'est pour quand ?» C'est vrai que ça aurait été gênant.
Là, franchement.
Déjà qu'il est tout timide, Olivier Dussopt, ça l'a pas aidé.
Ouais.
Allez, ce matin, on est heureux. On est heureux, moins que le PDG du laboratoire Pfizer, mais on est heureux quand même. Les laboratoires Pfizer et BioNTech qui affirment avoir trouvé un vaccin efficace à 90%, nous l'avons dit et répété. Et oui, à peine élu, Joe Biden trouve le vaccin contre le Covid. En 3 jours, il a déjà un meilleur bilan que Donald Trump en 4 ans. Chapeau, Joe Biden. Bon, en même temps, vu son âge, ça doit l'arranger fort, ce vaccin, Joe Biden.
Bah oui.
Et puis, l'autre info, Laurent. C'est donc cet objet d'une dizaine de centimètres, tout nouveau, et que le monde entier veut avoir. Non, ce n'est pas le nouvel iPhone, mais le vaccin contre le Covid.
Oui, encore lui.
Bon, on espère qu'il n'y aura pas autant de bugs et pas besoin d'autant de mises à jour que l'iPhone. On a une pensée pour celle qui va nous quitter prochainement. Elle vit sûrement ses derniers jours. C'est la notoriété de Didier Raoult. Et oui. Avec un vaccin, sa chloroquine ne sert plus à rien. Une pensée pour lui. Et puis aussi pour Jimmy Mohamed, qui ne veut pas s'emballer. Il l'a dit ce matin, il n'est pas fan du vaccin. Et chaque fois qu'il y avait des mauvaises nouvelles, lui était très positif, notre Jimmy positif. Mais là, il est prudent. Bon, très très prudent, très très pessimiste même sur l'avenir de ce vaccin. Il nous a plombé l'ambiance. En même temps, c'est vrai. Si plus personne n'est malade, notre Jimmy Mohamed, c'est lui qui est au chômage. Le chômage risque de changer de camp. Donc comme on l'aime bien, notre Jimmy, bon, guérissez. Le chômage va changer de camp. Donc notre consigne, parce qu'on aime bien notre Jimmy, bah oui. Guérissez, mais doucement. Pas trop vite et pas tous.
Et pas voilà. Tous. Ok, merci Mathieu.
Merci pour vous.
Le laboratoire allemand Pfizer a donc annoncé que son vaccin contre le coronavirus montrait des signes prometteurs et pourrait permettre de protéger 90% de la population. Tous les pays, la France comprise, risque donc de se ruer dessus, n'est-ce pas Emmanuel Macron ?
Alléluia ! Alléluia ! Ce vaccin, cher Julie Leclerc, sera le préservatif de notre génération. Il faut des mots forts. Le français pourra bientôt arrêter de faire ce qu'il déteste par-dessus tout. C'est-à-dire penser aux autres ou se laver les mains tous les jours.
Alors j'imagine, en tant que président, il y a la perspective d'un énorme soulagement.
Écoutez, cette annonce, vous n'êtes pas...
Sans savoir, non, peut-être.
Sans savoir, oui, qu'il ait eu lieu. Oui, merci de m'aider. Cette annonce a eu lieu le jour du 50e anniversaire de la mort du général de Gaulle.
Bah oui. Hier,
je pense que c'est un signe, voyez-vous, Julie Leclerc, un signe que le général nous envoie. Un ultime cadeau pour la France, un message pour dire à nous tous, je vous ai guidés. Hors de la Deuxième Guerre mondiale, Emmanuel Macron vous guidera hors de cette pandémie. C'est quelque part la libération.
Oh là là, vous êtes certain de ça, vous.
Écoutez, chère Julie, I have a dream. A dream. A dream qu'on puisse se faire la bise à nouveau. A dream qu'on puisse arrêter de payer les gens à rester à rien foutre à la maison. A dream qu'on puisse traverser la rue pour trouver du boulot. A dream que je puisse faire des discours pour dire autre chose que « Toussez dans votre coude. » Vous vouliez un vaccin français. Je vous ai compris.
Eh ben nous aussi, merci. Merci, monsieur le Président. Les laboratoires Pfizer ont donc annoncé un vaccin efficace à 90% contre le coronavirus. Philippe Douste-Blazy, vous pensez qu'on peut avoir un vaccin pour le printemps, par exemple?
Oui, en effet. Bonjour à tous. Bonjour à tout le bloc. Bonjour au chef de service, monsieur Béard. Bonjour à l'infirmière, madame Leclerc, bonjour Brancardier Cabrol, bonjour à mon confrère Jimmy Mohamed. En effet, je pense que vaccin sera une collection printemps-été 2021 formidable. À condition bien sûr qu'on ait fait une étude randomisée, en double aveugle, en triple lutz, avec double boucle piquée. Mais s'il est disponible, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on va éradiquer la menace du Covid, afin de ne plus se retrouver qu'avec de simples cancers ou de banals sida.
Oh, ben merci docteur, merci beaucoup, à bientôt.
Hein. Vous êtes chef de service, pardon, madame Leclerc, vous êtes chef de service, pardon, j'ai dit infirmière, je me suis trompé.
Marine Le Pen a souvent revendiqué une continuité avec le général de Gaulle, on va l'accueillir tout de suite. Bonjour Marine Le Pen.
Oui, bonjour madame. Bonjour, joli métis, bonjour, joli Mustapha. Bonjour monsieur Cabrol. Et sachez madame, que le Rassemblement National est bien le dernier parti gaulliste. Et nous voulons une France forte. Et comme général de Gaulle, madame, l'a souhaité. Une France indépendante, comme général de Gaulle le souhaitait, madame. Et d'ailleurs, vous avez entendu une seule fois, et dites-moi, est-ce que vous avez entendu une seule fois le général dire du mal du Rassemblement National ou de ma personne? Eh bien non, jamais, madame. Mais eh oui, ça vous fait sourire parce que ça vous embête.
Oh là là,
ce sourire de circonstance.
Mais il est mort en 70 et vous êtes né en 68, vous. Mais pardon, hein, historiquement, si on veut être sérieux, Jean-Marie Le Pen s'est construit contre le général. Le FN, c'est à la base des miliciens, des pédénistes, des soldats de l'Algérie française. Bah tiens, justement, le voilà, votre père, Jean-Marie Le Pen. Bonjour.
Oui, bonjour madame Leclerc, bonjour l'ingrate, bonjour à monsieur Eddy Mohamed, monsieur Cabrol, n'est-ce pas, je tiens à redire, n'est-ce pas, ma détestation du général de Gaulle. On a perdu l'Algérie française à cause de ce gauchiste, n'est-ce pas, c'est une lavette, alors que moi, je suis toujours là, vous le constatez, alors c'est lui qui est le plus résistant, c'est ça, c'est un Charlie ou Baby, c'est qui, permettez-moi de une parenthèse, je tiens à féliciter les laboratoires Panzer.
Les laboratoires Pfizer, hein, d'accord.
Ah bon. Oui, mais écoutez, tant pis, je les félicite quand même.
Eh ben merci, c'est gentil à vous. Merci Jean-Marie Le Pen. On revient à vous Marine Le Pen. Un mot des Américains qui ont opté pour un président âgé et sage plutôt que pour votre poulain Donald Trump.
Oui, écoutez, c'est quand même ballot si on mariait les deux candidats, racistes et grabataires. Mon papa avait toutes les chances de gagner en 2022.
C'est pas faux, ça, comme calcul. Merci, on vous laisse, Marine Le Pen. Le gouvernement veut faire du télétravail une obligation, mais beaucoup d'entreprises y sont encore réticentes. Bonjour Bruno Le Maire, vous êtes ministre de l'économie, ça va?
Oui, bonjour madame Julie, bonjour monsieur Béliard et bonjour à vos aimables sous-fifres. Je n'aurai qu'une question. Mais qu'est-ce que vous foutez là?
Quoi?
Hein, au lieu d'être chez vous, vous voulez quoi? Accélérer l'épidémie ou quoi? Franchement, vous voulez envoyer nos grands-mères à l'hôpital? Mais pourquoi, monsieur Béliard, pourquoi vous n'êtes pas dans votre garage à l'heure qu'il est?
Dans votre circonscription.
Mais oui, monsieur Cabrol, pourquoi vous n'êtes pas dans votre cave à l'heure qu'il est?
Au hasard, Cabrol, la cave. Hein,
qu'est-ce que vous voulez tous? Vous voulez que je vous colle un contrôle fiscal?
Vous aussi, vous souhaitiez généraliser...
Ça a l'air d'inquiéter Julie.
Pas du tout.
Elle en a sous le matelas depuis ces années.
Vous aussi, vous souhaitiez généraliser le télétravail.
Écoutez, c'est quand même fou, les Français, Hein, on le sait, on voulait passer aux 35 heures. Puis même, il y avait des velléités pour passer aux 30 heures. Et ouin, on voudrait avoir une vie en dehors du boulot, nanani, nanana. Et puis, au moment, vous avez l'occasion de rester chez vous, de bosser en slip ou en slop, comme Olivier Duslop, de regarder des DVD discretos, de ne pas vous emmerder dans les transports, de ne pas être obligé de prendre une douche. Encore que j'ai l'impression que M. Béliard prend que quelques libertés avec cette notion. Vous voulez absolument venir au bureau. Hein, mais vous êtes des grands malades.
Ça doit être ça, oui. Mais ce serait efficace à ce point, le télétravail.
Mais Madame Leclerc, il faut savoir que chaque fois que vous mettez un pyjama, vous sauvez une vie. Chaque pantoufle de plus est un malade de moins. Si vous mettez une cravate, vous tuez un vieux,
savoir. Oui, bah c'est bon, allez, si vous le dites. Merci Bruno Le Maire. Pour lutter contre le Covid, le gouvernement a écarté l'idée de confiner les seules personnes âgées. On va demander son avis à une spécialiste, tiens, on l'appelle.
Allô, maison de retraite et pétunia, maison L'Alfort. Christiane à votre écoute, ne quittez pas, je vous fais patienter en musique.
J'ai un rhumatisme qui devient gênant. Ma pauvre Cécile, j'ai 73 ans.
Merci d'avoir patienté. Excusez-moi, j'ose. Christiane, à votre écoute. Merci pour votre patience. Je vous écoute. À votre écoute, j'écoute.
Bonjour, Christiane. C'est Europe 1, là, c'est Julie.
J'adore vous écouter.
C'est sympa, merci. On voulait savoir ce que vous pensez.
Qu'est-ce qu'il est drôle, ce monsieur Béliard.
Nicolas Canteloup, encore plus. Hein. Bon. Allez, on voulait savoir.
J'aurais tendu la perche.
On voulait savoir ce que vous pensiez de cette idée de confiner les personnes âgées.
C'est-à-dire
Les isoler, faire en sorte qu'ils ne croisent personne, les mettre dans un endroit clos avec du personnel médical.
Dans un endroit clos avec du personnel médical, oui, d'accord. Oui. Et ce serait quoi la différence avec maintenant? Parce que bon, l'endroit clos, l'isolement, personne qui vient, ça on fait déjà, on a déjà
d'accord.
Ça.
Voyez. Je vois. Alors au fait, le confinement, ça impacte le moral des résidents, dites-nous.
Oh, si ça impacte le moral, je sais pas. Attendez, je vais demander, parce que là, vous me posez des questions, moi. Monsieur, qui c'est qui a... Ah, monsieur Giscard d'Estaing. Monsieur Giscard d'Estaing, approchez-vous. Vous me posez la question que je vous pose. Vous êtes déprimé ou pas?
Ben oui, bien sûr, je suis déprimé.
Oui, non, mais avant le confinement, est-ce que vous étiez déprimé?
Avant le confinement? Ah ben oui, j'étais déprimé aussi, bien sûr.
D'accord, je comprends, d'accord. Oui, Mme Julie, bon, maintenant, en fait, ça va, vous voyez, il n'y a pas d'impact vraiment sur leur morale. Hein, bon. Pour tout vous dire, on ne voit pas la différence.
Bienvenue sur Europe 1. Une très belle matinale. On a parlé, c'est vrai, ce matin, chers auditeurs, si vous n'étiez pas à l'antenne à 7h, on a parlé de raclette, mais aussi de Mireille Mathieu. Car oui, la grosse actu, c'est cette info dont on a parlé à 8h37. C'est vrai, les ventes d'appareils à raclette explosent. L'autre info, c'est que notre journaliste Sophie Echène n'aime pas le fromage.
Ah, j'étais sûr que ça allait arriver.
Alors, c'est vrai qu'on va avouer, on va tout avouer. C'est vrai qu'on est plus sur une info de niche, comme on l'appelle à la rédac. En tout cas, je sens que ces infos vous ont passionné. Donc on fera, parce qu'on a reçu des messages. Donc on fera une matinale, c'est promis, une matinale spéciale fromage, et j'inviterai la militante française soumise Raclette Garrido.
Oui, Raclette Garrido.
Oui, bon, bref, tout ça pour dire que l'info du jour, ce sont donc, je rappelle parce qu'il faut rappeler.
Non.
Ce sont les ventes d'appareils à raclette qui explosent pendant le confinement, et ça c'est important. C'est pendant le confinement, et ça c'est vrai que c'est peut-être pas la chose la plus maligne qui soit, puisque on le sait, le Covid est une maladie qui touche principalement les gens en surpoids. Et nous, Français, qu'est-ce qu'on trouve de mieux? C'est s'empiffrer de fromage fondu. Bref, on n'est pas. C'est peut-être pas la meilleure idée. Mais c'est vrai que c'est. Il faut dire aussi que c'est bon, la raclette.
Ah, c'est sûr. Merci, Mathieu. C'est donc une date anniversaire aujourd'hui, hein, bien sûr, l'armistice du 11 novembre, la fin de la Grande Guerre. On va en parler avec quelqu'un qui n'était pas né en 1918, mais pas loin. On est en ligne avec Valéry Giscard d'Estaing. Bonjour, monsieur le président.
Denis Fabre. Attendez, cher Denis.
Mais, c'est pas Denise Fabre, elle est plus là, Denise.
Denise est morte.
Non, je veux dire, elle est plus. Non, non, elle va très bien, elle va très bien. Monsieur Giscard d'Estaing, je voulais parler de cette date anniversaire du 11 novembre avec vous.
Anniversaire avec moi. Ouais, je veux bien fêter mon anniversaire avec vous, c'est très gentil, cher Denise, mais il y a méprise. Moi, je suis du 2 février 1926, pas du 11 novembre 1918. Oui, mais... Faut corriger vos fiches, bel enfant.
C'est pas grave. Un petit mot du général de Gaulle, vous avez été ministre du général. C'était qui comme président, le général?
Oui, tout à fait, j'étais ministre du général. J'étais qui comme président général?
Alors, il était comment?
Vous voyez Hollande?
Oui.
Mais ça n'a rien à voir. Tiens, par contre, est-ce que vous voyez Sarkozy?
Mais oui, oui, oui.
Voilà. Bon, mais ça n'a rien à voir non plus.
Bon, écoutez, on ne va pas tous les faire. Hein. Merci, Président. On va accueillir Nadine Morano maintenant.
Et Macron, rien à voir non plus.
Oui, merci beaucoup. Merci, merci. Dès qu'on parle du général...
Conti, rien à voir non plus.
Dès qu'on parle du général, on l'interroge, ou plutôt elle prend la parole. Bonjour, Nadine Morano.
Bonjour.
Alors c'est quoi pour vous? C'est qui, je devrais dire, le général de Gaulle?
Ben, le général, c'était autre chose. Le général, c'était le courage, c'était l'élégance, la culture. Il traînait pas en slope le dimanche devant la téloche, le général. Hein, il était toujours nickel avec Yvonne. Hein, et puis il en avait dans le falzard, c'était oui. Charlie les grosses balances, oh, voilà. Là, mais il faut dire les choses, les gens non, comprennent.
C'est donc cette élégance à la française dont on vous sent l'héritière voilà. À travers ces
l'élégance à la française, voilà, c'était ça. Tout Charlie.
Malheureusement, ces commémorations et ce 50e anniversaire de sa mort qui devait être grandiose ne le sont pas à cause du confinement.
Mais pas à cause du confinement, mais pas du confinement, cocotte, à cause des Chinois, faut dire les choses. Ah, mais oui, c'est là les Chinois et leurs pangolins qui nous ont flingué le 50e anniversaire du général. Mais tu crois qu'ils s'excuseraient, ces margoulins? Ah oui, mon général.
Ta gueule. Oh.
Ah, là, au moins, elle a des chances de vous écouter, général. Allez, on en vient à Jean Castex qui parlera ce jeudi pour préciser la suite du confinement. Bonjour, monsieur le Premier ministre.
Eh oui, Premier ministre, eh oui, c'est bien moi. C'est fou, on ne s'y habitue pas, madame Julie. Bien oui, chère madame Julie, monsieur Béliard, monsieur Cramol, Mohamed, Bétou et compagnie. Et demain, c'est ma grande conférence de presse pendant laquelle j'annoncerai de façon responsable et républicaine absolument aucune bonne nouvelle. Donc, préparez les mouchoirs, vous allez plus chialer devant ma conférence que devant un téléfilm à la Noël.
Alors, qu'est-ce que vous allez dire demain? On a envie de savoir.
Écoutez, chère Julie Leclerc, soyons positifs. Certes, oui, nous avons plus de patients en réanimation, plus on en a plus. Certes, oui, nous avons plus de morts. Et oui, nous n'allons rouvrir aucun commerce. Nous allons fermer les lycées. Les amendes vont se durcir, les contrôles vont se multiplier. Et en plus, il va pleuvoir. Mais nous pouvons rester positif, je le redis, car même s'il va faire froid, même si la pauvreté va augmenter, même si les plans sociaux vont se multiplier, même s'il va faire nuit à 15h30,
oh là là, mais arrêtez.
malgré, et j'en terminerai, oui. Et c'est là que s'il se situe plaît. La note positive, chaque Français pourra fêter Noël.
Ah.
Mais seul.
Et sans cadeau. Seul. Ah bon, tout seul, bon.
Et sans cadeau, en tout cas, je suis content d'avoir partagé avec vous l'enthousiasme qui, je le dois le dire, est la marque de fabrique de ce gouvernement.
Eh ben dis donc, merci Jean Castex. Le secteur du jouet est en grande difficulté. En effet, la filière réalise 50% de son chiffre d'affaires en novembre et décembre habituellement. Hein. C'est un de ces domaines de l'économie dont l'activité est concentrée sur une période
bonjour.
Bien
précise.
Oula.
C'est Dominique Romantier.
Oh, tiens.
Encore que aujourd'hui, ce ne soit pas le spécialiste de l'amour courtois qui intervienne, mais plutôt, véritablement, l'économiste pur et dur.
Ah bon, Dominique Strauss-Kahn, vous avez une analyse économique à faire au sujet des secteurs impactés par le confinement?
Oui, tout à fait.
Bon,
tout à fait,
on vous écoute
clair,
alors.
Un secteur qui s'effondre peut entraîner la chute de toute économie, par un effet de domino. Prenons, comme l'a évoqué, le secteur du jouet. C'est un secteur important, le jouet.
Oui.
Il est impératif de sauver ce secteur du jouet. Donc je dis à vos auditeurs, achetez des jouets. Des toys. Des sextoys, éventuellement.
Ah, pas. Ah bah voilà, des toys, oui, bien sûr, des sextoys.
Des poupées gonflables, des menottes à fourrure, des calcifs en latex rose avec marqué dessus « I am your slave ». Car si vous n'en achetez pas, que se passe-t-il? Eh bien, votre morale baisse, votre vie est nulle, votre productivité est en berne. Et au final, c'est tout le pays qui entre en crise, simplement parce que vous avez rechigné à vous payer un sgeg en plastique.
Oh là là,
mais... Alors, je le dis, c'est un appel que je lance, achetez des jouets.
Achetez des jouets,
enfin,
bon
ben... Alors ça, je suis épaté. Ça, c'est une analyse économique super intéressante.
Ah, Nicolas Barré, notre spécialiste économique. Ben, ça promet tout ça. Hein.
Ben, écoutez, Julie, j'ai toujours hésité à me payer une poupée gonflable à l'effigie d'Angela Merkel. Mais si ça peut aider le pays, ben, faut le faire. Hein. J'en ai commandé une qui recommande l'austérité quand on appuie dessus. Ah, ça me fout dans des états pas possibles.
Hein. Non, messieurs, franchement, est-ce qu'on peut être sérieux deux minutes? On va parler de ce genre de jouets.
Vive l'austérité!
Non, mais on parle pas de ce genre. On parle des jouets. On parle pas de ce genre de jouets, là, tous les deux, nos économistes. On parle des jouets pour les enfants. Et on va demander son avis à Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Ça sera plus sérieux.
Oui, bonjour Madame Julie, Monsieur Béliard. Bonjour à tous vos aimables sous-fifres. Tenez, Monsieur Béliard, je vous ai amené le. Regardez.
Quoi? C'est quoi ça?
Le garage Playmobil. Hein, tenez, même, je vais vous inventer une Barbie Toi Ma Star. Mmh. Bah, écoutez, il faut bien écouler les stocks. Hein, écoutez, sur le jouet, sur ce débat du jouet, il n'y a pas de débat. La filière va mourir si on ne fait rien. Et là, j'en appelle à la responsabilité des premiers concernés.
Ah, les marchands de jouets?
Non, j'en appelle aux enfants. Ah. Les enfants. Approchez-vous, les enfants. Approchez-vous du poste de radio. J'ai quelque chose à vous dire.
Oh là là.
Bonjour les enfants, je suis le lutin Bruno. Je travaille à l'usine de jouets du Père Noël. Et oui, et cette année, nous avons trop de stock. Alors dites-le à papa et à maman, cette année, le Père Noël va vous offrir 5 fois plus de jouets.
Oh, mais vous êtes malade, arrêtez.
Les enfants Béliard, vous m'entendez? Cette année, il y aura 5 fois plus de cadeaux sous le sapin. Formidable, non? Il y aura des poupées, des pistolets laser, des transformers, même des Superman. Oh, 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 quel joyeux Noël on va avoir.
Eh ben dites donc, ça va coûter une fortune au ménage, ce que vous racontez là.
Oui, ben nous, on n'arrive pas à relancer la consommation, donc juste utilise les gamins pour foutre la pression aux parents et les forcer à dépenser.
Ah, allez,
ça peut marcher, ça peut marcher.
Ben oui, monsieur Béliard, c'est qu'il en a sous le bonnet à grelot, le lutin Bruno.
Un garage Playmobil pour vous, Mathieu, j'ai bien aimé, là, le garage, hein, ça ne vous quitte pas, ça. Allez, on va faire un petit tour du côté du Vendée Globe pour terminer avec Nelson Montfort. Bonjour, Nelson. Nelson?
Oui, oui, bonjour, bonjour mademoiselle, madame. Vous êtes l'épouse de François Gabart. Votre mari est donc parti en mer pour 70 jours. Est-ce que, ma question est simple, est-ce que la solitude ne vous pèse pas trop, ce grand lit froid? Si éventuellement vous avez besoin d'en discuter avec un professionnel du sport, je peux...
Mais Nelson, vous êtes à l'antenne, là, on vous entend, mais qu'est-ce que vous faites encore sur le port? Les marins sont au large, en pleine mer.
Oui, pardon, justement, je voulais en profiter pour aller donc à la rencontre de la femme d'un marin. Le marin est rude, mais la femme de marin, je dois dire, est aussi rude également. Je repasserai dans 10 jours.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Vous l'avez entendu ce matin, une exclue. J'avais en exclusivité un homme que l'on n'a pas entendu depuis très longtemps. Je l'ai dit et répété, c'est Laurent Wauquiez. Et oui, on ne l'avait pas entendu parce que je trouvais que c'était bien qu'on l'ait sur Europe 1. Ça fait du bien de se lever en écoutant Laurent Wauquiez le matin. Et Laurent Wauquiez s'est déclaré, vous l'avez entendu, c'est un scoop favorable aux purificateurs d'air dans les écoles. Ouais. N'est-ce pas, monsieur Wauquiez?
Bonjour, c'est Béliard. Oui, ce matin, vous l'avez compris, je suis monsieur Pchipchit. Oui, je suis pour que l'on purifie l'air. Vous voyez, là, je viens à l'instant de purifier le vôtre à travers un Airwick fraîcheur pamplemousse. À la fois rafraîchissant, apaisant et printanier. Tenez, j'en ai un autre. Voilà. Ça, c'est du désodorisant bio et végétal que m'a prêté Fanny Agostini, senteur pain des Landes, laveur et air marin. Oui, car dans ce studio, vous m'excuserez, mais ça sent le mouflon.
Oh, ça va.
Bref, oui, je demande instamment et solennellement des purificateurs d'air dans les écoles. Parce que c'est un domaine dans lequel je m'y connais. Je ne me quitterai pas dans tout, mais l'air, je m'y connais. J'embrasse depuis 15 ans. Mais vous l'avez compris, je ne peux pas être dans toutes les salles de classe en même temps. Donc je suis monsieur Pupit.
On a compris. Merci. Oh, ça sent bon dans le studio. Merci beaucoup Laurent Wauquiez.
Je vous en prie.
Dans l'affaire du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy, Ziad Takieddine, le principal accusateur, s'est rétracté. Dans une vidéo diffusée par BFM, il déclare « Monsieur Sarkozy n'a pas eu de financement libyen pour la campagne présidentielle. Jamais. » On est en ligne avec Nicolas Sarkozy. Bonjour Monsieur le Président.
Oui, Mme Julie, Monsieur Béard, Monsieur Cabron, Monsieur Mohamed. Merci de m'accueillir tout d'abord, parce qu'il faut être poli. Écoutez, oui, Ziad Takieddine s'est enfin décidé à avouer qu'il mentait. Je le dis depuis des années que Takieddine est un menteur. Il a toujours menti. Il ment comme il respire. Vous voulez un peu de pied-pied? Par contre, ce qu'il a dit hier... Hier, il a pas menti, il faut le croire. Hein. Hier, il a pas menti. Et ça, c'est un soulagement. Cette première vidéo me soulage.
Mais comment ça, cette première vidéo?
Oui.
Pourquoi, il y en aura d'autres?
Non, mais franchement, attends. Une seule, ce serait pas suffisant. Ah bon. Et aussi avec lui, excusez-moi, Ziad, qui va annoncer qu'il a menti à toutes ses auditions par les juges. Attendez, Ziad, il va annoncer. Allez, Ziad, on y retourne. S'il vous plaît, toute l'équipe, on y retourne. On y va. Tu me le fais la même qu'hier. Sarko est innocent, scène 2. Moteur, action. Allez, on y va. Nicolas Sarkozy est innocent. J'ai toujours menti. Oui, ça, tu joues un peu faux, Ziad. C'est pas mal. Bon, écoutez, on va la garder. Mais pour la scène 3, Ziad, il faut que tu sois plus mordant. Tu joues plus félin, plus convaincant. T'imagines, t'es un tigre. Voilà. Tu fais l'amour à la caméra. Là, tu bouges. Hein, lâche-toi. Hein. N'oublie pas que mes amis tchétchènes, ils sont toujours avec ta famille. Hein, d'accord.
Bon, ben, ça promet tout ça. Oh là 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 là. Bon, tant qu'on vous tient, M. Sarkozy, hier, vous assistiez aux cérémonies du 11 novembre. Qu'est-ce que vous pensez de l'entrée au Panthéon de Maurice Genevoix?
Oui, ça, c'est un grand auteur. C'est un auteur pour poilu.
Vous le connaissiez?
Ben, si je connaissais Boris Geneviève, évidemment, Boris. C'est un immense auteur qui devait entrer au Parthénon.
Au Parthénon, c'est légitime. Oui. Non, attendez, c'est pas Boris Geneviève, hein. Maurice Genevoix. Et son roman le plus célèbre, bien, c'est Ceux de 14.
Oui, Geneviève, ne jouez pas sur les mots. Pour tout le monde, les filles et les garçons. Son roman Ceux de 14.
Ceux de 14, oui, c'est ça.
Oui, c'est celui qu'il a écrit. Formidable. Formidable. Et puis il y a la suite aussi, ceux de 15.
Ceux de
16.
Ceux
qui va
16,
bientôt
oui,
écrire.
On a compris, oui.
Non, mais c'est un peu moins. Je suis d'accord avec vous. Ceux de 16, c'est un peu moins bien parce que c'est une suite. C'est normal, c'est comme Rambo, Rocky ou Létuche. C'est toujours un peu moins bien, les suites.
Oh là là.
Sommes dans les hôtels, d'accord.
Il y avait longtemps, tiens. Merci, M. Sarkozy, à bientôt. Hier, François Hollande assistait lui aussi aux cérémonies du 11 novembre à l'Arc de Triomphe, en présence évidemment d'Emmanuel Macron. Et l'ancien président a demandé à son successeur si c'était pas trop dur en ce moment. Nos équipes étaient sur place.
Merci encore d'être venu, mon général. Merci. Ah, monsieur le préfet, vous êtes là. Merci d'être là et d'avoir organisé tout ceci. Merci, madame Hidalgo. Madame la maire, j'ai compris que c'était compliqué d'organiser tout cela. Ah, monsieur le président Hollande.
Oui, salut Gabin. Alors, ça va? Pas trop dur en ce moment?
Écoutez, monsieur le président, on fait comme on peut.
Oui, tu tiens le coup, tu ne regrettes pas de m'avoir piqué ma place? T'as pas trop le seum? T'as pas envie de chialer de temps en temps? Ça va, c'est pas trop dur?
Non, tout va bien. Il y a une pandémie mondiale, une crise économique, un confinement à gérer, le terrorisme, le chômage. Et en plus, je suis obligé de voir ta gueule. Mais sinon, tout va bien, connard.
Oh là 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 là.
Ça va. Je demandais ça pour être poli. Je te trouve bien agressif.
Ta gueule.
Mais je suis content de plus être président. Vu comme ça rend nerveux d'être président, je suis content.
On va arrêter là, alors. Non, mais monsieur Macron, on vient d'entendre cette archive d'hier. Hein. Vous êtes maintenant avec nous dans ce studio. Bonjour.
Oui, je ne suis pas sûr qu'elle soit fidèle, mais bref. Bonjour à toutes et à tous. C'est gentil d'avoir coupé au moment où j'allais lui mettre une gifle.
Alors, un dernier petit mot sur les cérémonies d'hier. Vous avez fait un discours sur les soldats de la guerre de 14 et Maurice Genevoix est entré au Panthéon.
Voilà, je me suis dit, de quoi les Français ont besoin pour se remonter la morale. Je me suis dit d'un long discours sur la Première Guerre mondiale et qu'on fasse rentrer Maurice Jaunebois au Panthéon.
Jaunebois ?
Oui, Jaunebois, oui. Du coup, hier, après m'être recueilli sur la tombe du soldat inconnu, je suis allé me recueillir sur la tombe de l'écrivain inconnu.
Non, mais il est connu, Maurice Jaunebois, allons.
Oui, 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 pareil. Bon, Cabrol le connaît.
Bon, moi, je pense qu'on va parler d'autre chose.
Il y avait
hein.
une ferme de 3 hectares à côté de chez M. Cabrol.
Bon, autre chose, Jean Castex va parler cet après-midi. Pas de desserrement du confinement en vue, M. Macron ?
Desserrement du confinement en vue. Attendez, ouais. laissez-moi réfléchir. Non, non, vous savez, à votre place, j'en profiterai du confinement. Hein. Il va vous manquer quand vous serez obligé de rattraper toute l'activité perdue et que vous allez bosser 137 heures par semaine. Si j'étais vous, je ne serais pas trop pressé que ça s'arrête.
Jean Castex va donc parler à 18h. Bonjour, monsieur le Premier ministre.
Bonjour, madame Julie, monsieur Pécard, monsieur Macron, monsieur Mappet. Et vous allez être content, je viens avec du positif.
Ah, très bien.
Ah oui, ce matin, je suis aussi positif qu'un test PCR après un passage dans le nez d'une personne âgée.
Oh, ben, ça promet, alors. On s'en réjouit d'avance, monsieur Castex.
Oh, écoutez, pas d'ironie, hein, simplement un petit peu d'humour. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Noël sera raté.
Voilà. Raté,
nous,
ah
ne,
bah.
Voilà. Nous ne pourrons pas sauver Noël et je crois qu'on peut tous s'en réjouir.
Ah bon ?
Chacun le fêtera tout seul, chez soi, sans cadeau, sans famille, sans OGM et sans sulfite pour faire plaisir à maman Agostine.
Ah bah vous parlez d'une bonne nouvelle.
Mais si, si, alors.
Quoi ?
Prenons un peu d'auteur, car si nous annulons le Noël en famille... Pas de tante Véronique qui vous parle de sa rupture avec un employé de chez Mondial Moquette. Pas d'oncle Félix.
C'est bon, le couple.
Oui, bah on l'a tous connu. Pas...
Non, le Noël des Conteloutes.
Tout à fait. Pas d'oncle Félix, complotiste qui vous explique que Bill Gates a inventé le virus de la 5G. Pas de cousin Tartampion qui dit du mal des Arabes. Pas de cousine, là on est chez M. Béliard. Pas de cousine. Une machinette qui dit du mal des juifs, pas de grand-mère qui vous resserre 4 fois de la purée périmée il y a 2 jours, rien de tout cela, juste un petit DVD, une bouteille, demi-bouteille avec modération de champagne et la paix, merci coronavirus.
Eh bien ça donne envie tout ça, merci Jean Castex. Aux États-Unis, Joe Biden prend ses marques, Joe Biden qui a fait une révélation étonnante, jeune, il était bègue. François Bayrou, bonjour. Madame Julie, oui. Enfin.
Non, my friends of Europe.
Ah, d'accord.
Madame Julie, Mr. Béliard, vive les États-Unis. Joe Biden, musique.
Tout ça pour ça, ouais. Bah dis donc.
Oui, ça vient de loin.
Bravo les auteurs, hein. Ah, magnifique.
Oui, c'est bien de loin, les gens du voyage. Voilà, j'avais envie de mettre un peu de musique, car c'est la fête. Vous vous rendez compte, un bègue peut devenir président.
Bah oui.
J'ai donc décidé d'arrêter de penser à la France de dans 30 ans pour me consacrer à celle de dans 2 ans.
Mais qu'est-ce qu'il y a dans 2 ans ?
Ben 2022, et mon élection triomphale.
Ah, d'accord.
Ah ben si la mode est au bègue, centriste et endormie, française, français, je suis votre homme.
Oui, mais pas sûr que Biden aurait gagné sans Trump avant lui. Hein.
Oui, ça c'est pas con ça.
Ben oui.
Alors, oui, je sais. Effectivement. Donc, en 2022, votez Marine Le Pen. Et moi, 2027, bim, je déboule. Et d'ailleurs, quel âge j'aurai en 2027 ?
Vous aurez 77 ans.
Voilà, comme Biden. Comme par hasard. Vous savez, c'est beau quand l'histoire est écrite d'avance.
Merci François Bayrou. Allez, football pour terminer. Hier soir, la France a été battue par la Finlande en match amical. Un match marqué par la première sélection de Marcus Thuram, le fils de Lilian. Bonjour Didier Deschamps.
Oui, bonjour. Oui, c'est effectivement la première de Marcus Thuram, le fils du père. Bon, ben là, voilà. Un match, une défaite. En fait, j'aurais dû sectionner le papa. Il avait de meilleures statistiques.
Ah, meilleures statistiques, oui. Alors, vous avez dit Marcus Thuram est très bon, et vous l'avez précisé, être fils d'eux ne donne pas droit à une place en équipe de France.
Oui, voilà. Vous savez, je ne me base que sur les qualités footballistiques du footballeur, pas sur le pédigré du géniteur. Hein. Bon, effectivement, à partir de là, c'est... Attendez, pardonnez-moi. Non, tu éteins ça.
Qu'est-ce qui se passe là, Didier ?
Non, c'est le petit Brian Barthez là qui fume des clopes dans le vestiaire. Brian, tu m'éteins ça tout de suite. De son père. Hein. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est...
Et ça,
oh,
c'est...
C'est
quoi ce fracas là
vrai, Non, c'est Kevin Guivarche qui vient de tomber en laissant ses chaussures. Non, fais attention, mais tu mets tes pieds, voilà. Bon, attendez, je dois vous laisser parce qu'il y a le petit Lucas Zidane qui met un coup de boule à notre cuisinier italien. Oh là là, tel père, tel fils.
Sonia Mabrouk est son invitée.
Ancien ministre de l'économie, Mardo Montebourg, bonjour. La fermeture de Bridgestone, qu'est-ce que cela évoque pour vous? Est-ce qu'il y a des solutions pour éviter ce type de fermeture, Mardo Montebourg?
Cher Sonia Mabrouk.
Ah, génial.
Tout ça vient des Chinois. On ne peut pas lutter, mais les Chinois, là-bas, ce n'est pas du travail, c'est de l'esclavage. Donc il faut arrêter avec les discours hiéréniques. Je l'ai perdu. J'ai perdu Sonia, oui, hiérénique, ça vient du grec, oui. Bon, j'ai perdu tout le monde. Attendez, tout à l'heure, rassurez-vous, je vais placer le mot hétérodoxe, mot contre-trip. Bon, cela dit, revenons aux fondamentaux. Moi, je peux vous dire de quoi je parle, parce que moi, je suis petit-fils de boucher, charcutier, Henri Montebourg, à Autun en Saône-et-Loire, 12 rue Victor Hugo, à côté de la boulangerie du Val. Donc, je ne sais pas pour faire la pute, de toute façon, c'est fermé, parce que, pour tout vous dire, c'est peut-être pas le bon exemple, puisque mon grand-père a fait faillite. Tout ça, écoutez-moi bien,
oui.
Parce qu'il y a un comte chinois qui a ouvert une boutique juste en face de lui. Mon grand-père Henri vendait le rhum steak à 31,50 € et le chinois vendait le 4 € le kilo. Bon, on s'est rendu compte plus tard, l'histoire le dira, que c'était du pangolin.
Tout ça,
pour dire que les Chinois et les ricains, c'est des cons. Donc, il y a des solutions hétérodoxes. J'avais dit que je le placerais, je l'ai placé. Oui, il faut noter, des solutions toutes belles. Je peux te placer à votre antenne, je peux faire un scoop là. Alors, j'y vais. Il faut bloquer Veolia, racheter Alstom et reconstituer Alcatel. Voilà. Ah, depuis que je suis plus en poste, je suis bon, je peux te dire. Et dites donc, plutôt rigoler, Béliard. Le Médit de France, on repassera pour le Médit de France. On t'a invité, c'était qui, Sting, hein? C'est bon pour le niveau Médit de France.
Il est à Senlis.
Ben oui, d'accord, mais enfin.
Ah oui, il vit en France.
Oui, mais enfin, c'est du produit exporté, ça.
Non, hein? C'est l'étranger qui vient produire en France.
Ouais. Alors qu'il y a Daniel Guichard, ça, c'est du produit. Ça, c'est du bon produit français. Allez, je vous laisse un pot de miel, parce que je suis sympa.
Ah oui, ouais. Merci, mais c'est gentil. Hein?
Déjà à l'époque.
Pour Julie.
C'est pour nous deux. Nicolas, c'est pour toi et moi.
Ouais, ça c'est du très miel. Sympa. Ben oui, je suis un gars sympa. Déjà à l'époque où je tenais Habitat, je vais vous faire des coussins à la Canteloup, au Canteloup et là, Julie.
Voilà. On a tous.
Ah, sympa. Ben oui, c'est Noël. Allez, régalez-vous. J'ai du stock.
Allez, c'est bon. Merci Arnaud Montebourg. Un plaisir de
vous
voir.
Mes abeilles vous embrassent. Ah. Et picote un peu.
Allez, ben Mathieu, sympa. On vous retrouve.
C'est très, très, très sympa.
Toujours
très sympa. Merci beaucoup à Arnaud Montebourg. Ce matin, c'est vrai, on nous l'avons dit, j'ai accueilli Sting. Vous l'entendiez, Sting, mon pote, mon refrain, mon brother. On s'appelle, oui, par nos prénoms. Vous avez entendu, il m'a appelé Mathieu. Moi, je l'appelle Sting. Bon, parce que je ne connais pas son autre prénom. Mais on est comme ça, nous. On est comme ça, nous, les rockers. On gratte un peu la guitare, lui et moi, c'est vrai. Moi, j'ai choisi la radio. Lui, il a choisi de persévérer dans la musique. C'est bien de croire en ses rêves. C'était un scoop. C'est un scoop. Et puis, je l'ai dit, redit. Hein, il n'est pas venu, il n'était pas en promo. On a passé tous ses disques, mais il n'était pas en promo du tout.
Qu'il
n'était
pas en promo.
Il n'était pas en promo.
Il l'a dit.
Je l'ai dit ou pas?
Bienvenue en tout cas sur Europe 1. Europe 1, écoute, le monde ne pas changer. Parce que c'est vrai. Jean Castex l'a dit hier, rien ne change. La dépression est prolongée jusqu'au 1er décembre. Pardon, le confinement, est prolongé jusqu'au 1er décembre. Pas la dépression, je confonds tout le temps. Alors, le confinement sera peut-être allégé. C'est le mot qu'il faut retenir parce qu'on reste positif sur Europe 1. Le confinement sera peut-être allégé en décembre. Et oui, le confinement, c'est, comment vous dire, c'est comme la mayonnaise. En période de fête, il faut passer à l'alléger, sinon on explose tout. Enfin bref, c'est prolongé, on n'a pas de chance.
Ah, voilà.
Avoir une chance de cocu. Nous parlions de chance à l'instant avec Mathieu. Savez-vous d'où vient cette expression, Mathieu ?
Mal.
Eh bien, alors, elle vient tout simplement... Bonjour, c'est Dominique Lormanti.
Ils sont tous là, c'est un festival.
Eh bien, cette expression vient de moi.
Ah bon ?
Parfois, lorsque j'allais faire un dîner avec une amie épilée qui parle brésilien, je n'arrivais pas à conclure, parce que j'avais oublié mon portefeuille. Et du coup, j'étais obligé de rentrer chez moi, retrouver ma femme. Et là, on pouvait dire qu'elle avait de la chance ce soir-là.
Oh là là.
Merci, cher Dominique. Je n'osais pas le dire. J'avais une autre version, mais je n'osais pas dire la vraie. D'ailleurs, sachez qu'au Mexique, avoir une chance de coquille, c'est dire avoir le cul bordé de silicone carné.
Non, mais c'est vrai, Stéphane.
Mais j'en sais rien. Je ne suis pas mexicain, ma Julio. C'est juste que ça donne une petite couleur un peu exotique à ma rubrique. Sinon, on s'ennuie. Faut donner un esprit samba à cette matinale. Si on se contente d'écouter Arnaud Montebourg qui parle de pneus, on ne va pas beaucoup se marrer. Oh, oui, merci messieurs. On était en train de remercier Arnaud Montebourg. Allez, et puis l'autre info, c'est Didier Raoult. Didier Raoult poursuivi par l'ordre des médecins pour violation de la confraternité, information à un risque erroné du public, charlatanisme. Et...
Non, mais ça va pas bien. Non, mais ça va pas bien, monsieur Béliard.
Jean-Claude Gaudin, bonjour, il y a du monde ce matin.
Non, mais allez-y, non, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre dans votre liste, là ? Empoisonnement du public, c'est ça ? Association de malfaiteurs ? Et pourquoi pas zoophilie sur un pangolin enrhumé ? Non, je suis déçu, monsieur Béliard, par votre forme de racisme, car c'en est un. Si, c'est du racisme. On lui reproche au docteur Raoult de quoi ? D'avoir exagéré les vertus de la chloroquine ?
Bah oui.
Oui, et d'avoir grossi, d'avoir extrapolé. Autrement dit, on lui reproche quoi ? D'être marseillais.
Ah.
C'est du racisme. Réveille-toi, Nelson Mandela. Ils sont devenus fous.
Bon, bah merci à tous. Merci. Allez, on enchaîne avec Jean Castex, qui n'a rien annoncé de nouveau hier. Hein. Tout juste envisage-t-il un allègement du confinement le 1er décembre pour certains commerces. Bonjour, monsieur le Premier ministre.
Bonjour, madame Julie, monsieur Béliard, bonjour à tous les papis et les mamies qui nous écoutent, de moins en moins nombreux, certes, à cause de la Covid.
Oui, bon, bah, sympa, oui.
Soyons positifs. Vous le savez, je suis positif comme un test salivaire après que mamie ait bavé dessus.
Oh là là. Alors, hier, vous avez répété ça, hein, que vous vouliez être positif.
Voilà, positif, hein? Je suis ravi de partager avec vous de bonnes nouvelles.
Alors,
préparez les confettis. Alors, les commerces vont fermer encore au moins 15 jours. Aucun desserrement du confinement n'est prévu. Ouais. Les hôpitaux sont proches du point de rupture. Il fait froid.
Oui, d'accord, mais attendez, mais c'est quoi la bonne nouvelle ?
Je n'en ai pas.
Ah bah dites, fallait commencer.
Non, j'ai dit ça pour ne pas déprimer tout le monde. Dites-vous quand même que la situation ne peut pas être pire, donc on ne peut que remonter. Et ça, c'est positif.
Alors, vous avez annoncé que cette année, on ne pourrait pas faire de grandes fêtes pour le réveillon du Nouvel An, par exemple.
Voilà, exactement. De toute façon, se souhaiter une bonne année. On a bien vu au dernier réveillon que cela ne servait à rien. On a tous passé une année catastrophique. Se souhaiter une bonne année, une bonne santé. Non, c'est trop ambitieux par les temps qui courent. Cette année, le 1er janvier, on va juste se souhaiter une bonne journée. Voilà, ce sera déjà largement suffisant.
Eh bien, merci, monsieur Castex. Après la rétractation de Ziad Takieddi, Nicolas Sarkozy peut-il revenir pour 2022 ? Ses proches en font déjà un souhait. Le souhait nous apprend l'Express. On est en ligne avec Nicolas Sarkozy.
Oui, bonjour, Angélie. Revenir en 2022. Oui, n'allons pas trop vite en besogne. Hein. J'ai encore d'autres petites affaires judiciaires pour lesquelles Ziad ne m'a pas encore innocenté. Mais sachez que c'est en cours. Faut le sachez, c'est en cours.
Oui, oui.
Allez, vous, s'il vous plaît. Les copains, vous nettoyez le plateau. Excusez-moi, Mme Chim, M. Béliard.
Allez-y,
Ziad, on va jouer. Ziad, tu te prépares, tu te changes. Oui, tu restes comme ça. Voilà. Tu vas jouer la scène de Sarko est innocent dans l'affaire Big Malion. T'as pris hier soir ton texte. Alors, tu te concentres. Attention, les gars, la caméra, lumière là. Moteur, action.
Nicolas Sarkozy est totalement innocent dans l'affaire Big Malion. Voilà, c'est un coup monté par ses ennemis et c'est tout.
Coupé.
Ouais, bon, Jade, on va la garder parce qu'on est pressé, les gars. Mais sur la prochaine, Jade, essaye de me faire plus du. Un côté plus Jean Gabin, tu vois, plus persuasif, tu vois, la voix timbrée, tu projettes. Il faut que pour timbrer ta voix, tu projettes l'air par le diaphragme dans le bas du ventre. Ça va pousser d'en dessous. Pense aux grands acteurs des années 60. Voilà. Allez. Allez. Sarko est innocent de l'affaire des écoutes. On a fait une action.
Oh, ma biche. Sarko, il est innocent dans l'affaire des écoutes.
Non, stop. Coupez. Putain, je te dis Gabin, pas de funeste. Qu'est-ce que tu me fais, là?
Pardon, excusez-moi. J'arrive sur le plateau. Excuse-moi, Nicolas. Dis-moi, Ziad, quand t'auras fini d'innocenter Nicolas dans toutes ces affaires, tu pourrais m'innocenter, moi? Ah. On fait ça vite parce qu'il y a aussi Cahuzac qui attend son tour.
Non, vous arrêtez parce que j'aime l'épuiser. Ziad, tu retournes te reposer dans ta caravane. Hein, tu refais un raccord maquillage, un break de 20 minutes. Voilà, ok. Bon, excusez-moi, Mme Julien, c'est compliqué de gérer un grand acteur, hein, vous savez.
Merci, M. Sarkozy. Le vaccin anti-Covid développé par Pfizer ne fait pas l'unanimité. Le laboratoire est d'ailleurs l'objet
excusez-moi.
De
méfiance. Excusez-moi, pardon, excusez-moi de vous interrompre, cher Daniel Gilbert. Mais je vous entendais parler du laboratoire Pfizer.
Oui.
Ils ont un vaccin contre le Covid.
Oui,
c'est fantastique. Vous savez que c'est le laboratoire des génies qui ont développé le Viagra. C'est un très bon laboratoire, très efficace. Ah oui, très efficace. Grâce à eux, j'ai 20 ans depuis 60 ans.
Oui, écoutez, on se passera de ce genre de réflexion, hein, d'accord?
Oui, sur un autre temps, jeune fille. Dites-vous bien que si on arrête cette épidémie un jour, ce sera grâce à moi. Parce que j'en ai consommé beaucoup.
Oui, on a compris.
Du Viagra. Du coup, à chaque fois que j'ai pécho, ça finançait la recherche, quelque part. Merci, bébé.
Oui, bah, peut-être, mais en attendant, c'est pas sûr que ça va. Vaccin et du succès. Hein. Les Français se méfient de l'industrie pharmaceutique.
Oui, en attendant, la France se méfie de l'industrie pharmaceutique. Ouais. En attendant, la France est un des pays du monde qui consomme le plus de médicaments.
C'est vrai,
oui. Mais oui, mais ils croient quoi, les Français? que le Doliprane, ça pousse dans les champs de luzerne, hein, que chaque printemps, on va cueillir du Nurofen, que le Smecta, on l'obtient en trayant une vache. Non, et l'hydroxychloroquine, que tout le monde réclamait, elle n'est pas récoltée à la main par Fanny Agostini. Non, tout ça, c'est fait par les sociétés pharmaceutiques. Alors, soyons cohérents jusqu'au bout. Bon, écoutez, je vous laisse, chère Marie, embrasser votre leader de la matinée, Jean Roucas, pour moi.